dialogue. Mazungumzo.
Hakuna.
L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Vous
votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Mahindeleo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ces radio-journal. Au sommaire, après la suspension des activités minières dans le carré artisanal des Lomères situé à Louilly et l'obligation faite à tout occupant de quitter la zone, un exode massif de population a été observé. Des dizaines de pirogues motorisées avec à bord de marchandises ont quitté les ports de l'eau mardi matin en direction de Goma, Bukavu et d'autres localités. Et des cas de viols continuent d'être enregistrés dans différents territoires du Sud-Kivu. En seulement 4 jours, au moins 14 femmes ont été agressées sexuellement par des personnes non identifiées dans le territoire de Kalehi. Les défenseurs des droits humains condamnent ces actes et appellent les autorités à tout mettre en œuvre pour démanteler ces réseaux de malfaiteurs. La page sportive bouclera cette édition du journal qui est mise en onde par Barton Boussimé. Au microphone pour la présentation, je suis Omar Moudekereza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mahindeleo, celle qui vous informe par un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent au détail. Mahindeleo. Page noire, le corps de Deo Namujimbo repose désormais pour l'éternité au cimetière des Vigneux sur Seine, en France, depuis mardi 9 septembre 2025. Ici à Bukavu, une messe en sa mémoire a été dite en la cathédrale Notre-Dame de la Paix en commune d'Ibanda. Dans son homélie, l'officiant du jour a appelé les chrétiens à ne pas avoir peur de la mort. Pour lui, cette même mort n'a pas eu de pouvoir sur le Christ, d'où la raison de sa résurrection. Il appelle les chrétiens à marcher sur les pas du Christ pour vaincre la mort. Dans la biographie du défunt, lue par sa famille, ce dernier est présenté comme un homme qui a consacré sa vie pour les changements et la défense des droits humains. Finaliste en sociologie industrielle à l'université de Lubumbashi, écrivain de son état, Deo Namujimbo, a également formé dès son vivant plus de 77 journalistes dans la ville de Bukavu. Il laisse derrière lui une veuve et 6 orphelins, dont 4 filles. Ses familiers, proches, collègues et amis et connaissances ont rehaussé de leur présence à cette messe. Ancien journaliste à Radio Mahindeleo, Deo Namujimbo, est né en avril 1969 et décédé le 31 août 2025 en France après une période de maladie. Et les informations à présent, disons que les activités ont repris avec timidité dans l'après-midi du mardi 9 septembre 2025 dans la ville d'Ouvira, après près d'une semaine de manifestations des groupes se réclamant Wazalendo et structures de la société civile qui s'opposaient au déploiement du général Olivier Gassita, nommé commandant second de la 33e région militaire en charge des opérations de renseignement. Des sources sur place rapportent qu'au petit matin de ce mardi, la ville s'est réveillée dans une timidité, chacun ne sachant pas quelle attitude prendre. Mais déjà, vers la mi-journée, quelques taxis, motos et tricycles ont été visibles assurant les transports en commun. Néanmoins, les boutiques, magasins et institutions de microfinance sont restés fermés sur l'ensemble de la ville. Dans les réseaux sociaux, l'on annonce la traversée du général Olivier Gassita à Bujumbura sous la haute sécurité, mais aucune source officielle ne confirme cette information. De même, une délégation dépêchée par Kinshasa serait en route via Bujumbura pour s'enquérir de la situation sur terre. Rappelons que c'est depuis le mardi 2 septembre dernier que les manifestations ont commencé dans cette partie du Sud-Kivu. Le lundi 8 septembre a été particulier avec notamment une marche pacifique qui a débordé avant d'être violemment réprimée par les forces de l'ordre. Si le bilan officiel présente un mort et environ 8 blessés, d'autres sources parlent de plus de 5 morts. Et direction dans le territoire des Kabare présentement. Disons que les activités minières sont de nouveau suspendues dans le site de Lomera situé à Louilly dans le territoire des Kabare. L'annonce a été faite par le gouverneur de province sous la FCM23, Patrick Boussoubangui Chombo, lors de son passage sur ces sites aurifères le lundi 8 septembre 2025. Alors Kabika pour les détails.
Selon lui, toutes les personnes exerçant dans ces périmètres doivent momentanément quitter les lieux afin de permettre aux services compétents à procéder à l'identification des exploitants. Ayant fait partie de l'équipe qui a effectué cette descente à Louilly, l'administrateur du territoire des Kabare, Eli Rubabura Espoir, précise que cette mesure fait suite aux actes de délinquance récurrents commis par certaines personnes dans la zone. Il évoque également les échauffourées survenues récemment entre des agents de sécurité et des creuseurs artisanaux. Toutes les personnes qui travaillent dans ces carrés miniers ne sont pas connues, d'où l'urgence de cette identification, indique-t-il. Eli Rubabura Espoir indique qu'avant tout début de cette identification, le site doit être vidé de tous ses occupants. Il invite ainsi les exploitants miniers, les creuseurs artisanaux ainsi que les commerçants installés dans ces sites à respecter la décision du gouverneur suspendant les activités, le temps de clarifier la situation et d'identifier tous les intervenants. Il en parle.
En fait, après avoir observé une délinquance perpétuelle dans le site de l'Omera, la hiérarchie a décidé que nous puissions d'abord stopper, pas fermer. Stopper pour un temps, en fait, de commencer l'identification des exploitants. Et comme vous le savez bien, dans les sites miniers, il faut que nous puissions savoir qui sont les exploitants. Et puis, vous savez, dans ces sites miniers, il y a beaucoup de gens qui sont inconnus. On a jugé mieux de commencer l'identification, en fait, de savoir qui est exploitant. Parce que nous présumons qu'il y a des mauvaises personnes là-bas. En fait, l'identification ne prendra pas beaucoup de temps.
Alors, vous avez un message à tous les exploitants et autres exerçant les activités connexes dans la zone?
Nous les appelons seulement à exécuter l'ordre du gouverneur. Après avoir exécuté, qu'on puisse commencer l'identification. Et après l'identification, nous allons leur laisser d'entrer encore dans les sites miniers.
Il convient de rappeler qu'il s'agit de la deuxième fermeture du site de l'Omera par les autorités de l'AFC 123. La première avait eu lieu après les glissements des terrains survenus dans la nuit du samedi au dimanche 20 juillet dernier.
Merci à vous Alain Kabika. Et suite à la décision portant fermeture de toutes les activités dans le carré d'exploitation artisanale de l'or de l'Omera dans le groupement de Louis en territoire de Kabaré et l'obligation faite à tout occupant de quitter la zone, des mouvements intenses de population ont été observés depuis la soirée de lundi. N'est-ce pas Hélène Boudjiriri?
En effet, tous les matins, des dizaines de pirogues motorisées étaient mobilisées au port de l'Omera afin d'effectuer les mouvements les unes vers Goma, au nord Kivu ou encore Kalehe, Katana, Birava et Bukavu, selon les sollicitations des clients. Des personnes couraient de partout, avec leurs effets notamment des marchandises, matelas, caisses de bière, ustensiles de cuisine, groupes électrogènes, et tant d'autres effets pour ne pas rater une place dans ces engins motorisés. Un peu plus haut, c'est les tours des conducteurs des taximotos, communément appelés motards, qui étaient visibles par centaines dans différents parkings en train de charger les biens des creuseurs artisanaux et autres personnes exerçant des activités connexes dans ces carrés miniers. Ces sites de plus en plus florissant était devenu une destination privilégiée des milliers de personnes en provenance de tous les horizons, particulièrement celles qui ont vu leurs activités être arrêtées dans les services étatiques, les ONG ou encore dans d'autres zones et secteurs suite à la guerre actuelle que subit la partie est de la RDC. Des sommes importantes venaient d'y être investies dans différents secteurs, notamment l'hôtellerie et la restauration, les petits commerces, l'achat des substances minérales par les négociants et des petites activités commerciale, mais tout cela devra désormais attendre la fin de l'identification annoncée par les autorités. Pour des opérateurs économiques et autres petits commerçants, la suspension des activités est un coup dur, particulièrement pour ceux qui venaient à peine d'y investir et dont les activités n'étaient qu'au début. On écoute le témoignage de cette femme qui en parle.
Tutoke chez bote na mchuruzi, mwenye haiko mkaaji wa huku atoke.
On nous a tous demandé d'équiter, sauf ceux qui sont d'ici. Alors, on ne sait pas quoi faire. Nous sommes venus avec nos marchandises pour chercher de quoi faire vivre nos enfants, mais là, nous sommes obligés de rentrer. Nous avons déjà payé nos garanties locatives de plus de $400, mais on n'en a même pas bénéficié. Si c'est vrai, le gouvernement est venu pour nous aider, qu'il nous aide. Une fois à Bukavu ou ailleurs, qu'allons-nous faire comme travail?
De leur côté, les habitants du village de l'Omera et ses environs craignent plusieurs conséquences après la suspension des activités et si cela dure longtemps. Il s'agit entre autres de la famine, sachant que tous les champs ne sont plus exploitables car envahis par les activités minières, l'insécurité grandissante qui pourrait se caractériser par des vols ainsi que le risque de se voir expulsés de leur concession, même si leur identification a commencé le matin de mardi 9 septembre 2025. Ces conséquences pourraient également atteindre d'autres entités, sachant que les activités au site minier de l'Omera occupaient des centaines de sans-emploi, mais qui aujourd'hui sont obligés de retourner dans leurs villages et zones respectives.
Rappelons qu'avant la fermeture officielle des activités dans ce site minier de l'Omera, les activités y étaient déjà perturbées depuis 2 semaines. En effet, en date du 29 août 2025, de fortes tensions ont été signalées dans ces sites d'exploitation artisanale de l'or situés dans le groupement de Louihi. Tout a commencé lorsque l'équipe de sécurité sécurité civile mise en place par les autorités avait, dans la matinée, torturé à mort un transporteur de sable, communément appelé Kasumba, les soupçonnant de vouloir dissimuler une partie en échappant à leur contrôle. Ayant appris que leurs collègues avaient rendu l'âme, d'autres créseurs artisanaux vont alors se révolter contre les membres de cette équipe de sécurité jusqu'à brûler deux de leurs bureaux et provoquer la mort d'un d'entre eux. D'autres personnes mal intentionnées ont profité de la situation pour piller systématiquement dans les maisons des petits commerçants et d'autres opérateurs économiques, une attitude déplorée par des défenseurs des droits humains de la place. Dans l'intervention qui s'en était suivie, au moins deux autres personnes avaient perdu la vie, indique nos sources sur place. C'est en clair cet événement qui a été déclencheur de toute la situation vécue à ce jour. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal sur Radio Maendeleo émettant en direct de la ville de Bukavu.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Échangeons de chapitre à présent. Disons que l'instauration dans les églises et les médias des campagnes de sensibilisation contre les suicides peut réduire la tendance pour les personnes à vouloir ôter leur propre vie. Cette recommandation est du psychologue Idriss Banindé en marge de la journée mondiale de la prévention du suicide célébrée le 10 septembre de chaque année. Myriam Mufano.
Selon lui, la province du Sud-Kivu enregistre actuellement des événements en caractère traumatique qui peuvent conduire au suicide. C'est notamment le conflit armé, la crise économique, ainsi que les catastrophes naturelles, parmi lesquelles les incendies à répétition qui dépossèdent de familles de tous leurs biens. Malgré l'existence de tous ces facteurs, il demande aux habitants de faire preuve de résilience. En complémentaire, il demande aux églises et aux médias de jouer un rôle dans la prévention du suicide. Il invite également le relais communautaire et les organisations de jeunes à devenir des ambassadeurs de la promotion de la santé mentale. Le psychologue Idriss Banindé.
Il est vrai, c'est vrai, à un certain moment, avec tous ces événements à caractère traumatique, la personne peut se sentir à court ou au bout des ressources, que ce soit ressources personnelles ou communautaires, pour pouvoir faire face à ces événements. Et que la seule alternative pour la personne ne soit pas non seulement de mettre un terme à cette détresse qui est psychologique, c'est un moyen de mettre fin à la souffrance et il les considère comme un moyen de se reposer. C'est une occasion pour nous de pouvoir demander à tous qui interviennent dans le secteur de la santé mentale de faire impliquer les relais communautaires, les structures des jeunes pour qu'ils soient ambassadeurs pour pouvoir promouvoir le secteur de la santé mentale et lutter ensemble contre les suicides. J'envoie également un message à tous les médias locaux au niveau de la province jusqu'à vous, de pouvoir inscrire ou instaurer dans leur programme des campagnes de sensibilisation de lutte contre le suicide et de la promotion de la santé mentale. Les leaders religieux également, de pouvoir en faire autant.
Cette journée de la prévention du suicide sera célébrée ce mercredi 10 septembre partout au monde sous le thème « Changer les discours ». Cette journée est une occasion d'engager les gens à prendre soin d'eux et des autres. Elle permet aussi de démontrer du soutien envers des personnes qui ont des idées suicidaires.
Et avec vous, Expedi Kialou, les cas de viol continuent d'être enregistrés au Sud-Kivu, notamment dans différents territoires. À Calais, par exemple, en l'espace de 4 jours, au moins 14 femmes ont été violées par des personnes non identifiées.
Les faits se sont déroulés d'abord le mardi 3 septembre à Buzunga, sur le tronçon Nyabubale, où 6 femmes parmi elles, une élève, ont été violées alors qu'elles revenaient du champ. Après ce forfait, l'une des survivantes est partie voir les éléments de la SAM-23 pour raconter les faits. Ces derniers se sont rendus sur le lieu, mais les assaillants avaient déjà disparu, témoignent des défenseurs des droits humains qui ont requis l'anonymat. Vendredi 5 septembre, 8 autres femmes habitant le sous-village de Tshisheke et Kabumbiro ont été violées et l'une d'elles mutilée. En quoi nos sources sur place, parfois les assaillants suivent les victimes dans leur domicile, commettent leurs faits et s'envolent. Dans cette partie du sud Kivu et dans d'autres comme à Walungu et même une partie de Kabare, plusieurs femmes sont victimes d'abus sexuels par des hommes porteurs d'armes, mais pour différentes raisons, elles ont des difficultés à dénoncer. Ces femmes vivent parfois avec des blessures internes et ont même des difficultés à avoir accès aux soins nécessaires, surtout ceux de première nécessité, ce qui compromet leur santé mentale et physique, déplore des organisations de société civile et autres défenseurs des droits humains qui alertent régulièrement la rédaction de votre radio. Ces défenseurs des droits humains et acteurs de société civile condamnent fermement de tels actes et demandent aux autorités en place de tout faire pour démanteler les réseaux des auteurs de ces crimes, mais aussi faciliter l'accès aux soins de santé à toutes les victimes.
Et avant de parler sport dans cette édition du journal, disons que plusieurs quartiers de la ville de Bukavu font face à une crise persistante d'accès à l'eau potable depuis plusieurs semaines maintenant. Des Panzi-Angouba, passant par l'ensemble de Mungu et Mukuku dans la commune d'Ibanda, ou encore dans les Mossala, Kassali, Nkafu et Nyakaliba dans la commune de Kadutu, l'accès à l'eau est devenu un casse-tête. Myriam Mufano.
Dans les avenues de tous ces quartiers et bien d'autres, c'est tout le soir et matin que l'on peut apercevoir des colonnes de jeunes filles et garçons avec de bidons à main, sillonnant parfois sans connaître exactement où trouver et ne fût-ce qu'une goutte d'eau. Dans bien des cas, il s'agit de points non sécurisés, augmentant considérablement les risques de tomber entre les mains de bandits armés ou non armés, mais aussi à des points de puisage, souvent non entretenus à l'instar des lots de source, communément appelés bisola. D'autres chefs de ménage, ayant la possibilité, remplissent leurs véhicules de bidons pour aller puiser, soit à la source du Kadourou à Fonou dans la commune de Kadutu, ou encore à des endroits plus éloignés comme vers Brasserie dans la commune de Bagira. Pour les consommateurs et d'autres acteurs de la société civile, il faut une réponse rapide et efficace en faveur des habitants, l'eau étant une ressource vitale indispensable à la santé publique et la vie de population. On écoute à ces sujets Christian Bagouma, président de la société civile sous noyau d'Enkafou dans la commune de Kadutu.
Carence d'eau potable, cela fait plus d'un mois que certaines avenues du quartier Nkafou sont sans eau. Les familles courent des risques possibles à la recherche de cette d'arrêt rare. Certaines partent puiser les eaux dans les lacs Kivu avec plusieurs dangers, notamment les noyades ainsi que les maladies d'origine hydrique. Donc nous appelons quand même la régie des eaux à la responsabilité à un bon fonctionnement pour desservir la population de cette partie du quartier Nkafou à l'eau potable.
En cette période de la rentrée scolaire, témoignent responsables de famille, des enfants enregistrent souvent de retard à l'école et d'autres partaient même sans se laver correctement les matins par manque d'eau. Il en est de même pour les travailleurs qui sont obligés d'attendre, surtout dans l'hypothèse où aucune goutte d'eau n'est disponible dans les récipients au petit matin. Poursuit notre source de l'appel à une intervention d'urgence, surtout dans la ville de Bukavu, qui reste une zone endémique aux maladies d'origine hydrique, à l'instar du choléra. Contactez la régie des eaux, promet de réagir dans les prochaines heures.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maedeleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, coup dur pour les Léopards de la RDC. En 8e journée des éliminatoires, ils se sont inclinés face au Sénégal hier mardi soir au stade de Martyrs de Kinshasa. 2-3. Et pourtant, tout avait bien commencé pour les Congolais. Poussé par un stade plein à craquer, Cédric Bakambu ouvre la marque à la 27e minute. Puis, à la 35e, Yohan Wissa double la mise. 2-0 déjà. Mais les Lions de la Teranga se réveillent dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Ils réduisent l'écart à la 40e minute. À la pause, les tableaux affichent 2-1 pour les Léopards. En seconde période, les Congolais paraissent fatigués, dominés dans les jeux. Les Sénégal en profitent. Nicolas Jackson égalise à la 54e minute. Puissard donne l'avantage aux Siens à la 72e minute. Score final, RDC 2, Sénégal 3. Les Léopards quittent le terrain la tête basse, devant un public pourtant venu en masse pour les pousser vers la victoire. La qualification n'est pas totalement perdue pour les Léopards, mais elle s'éloigne sérieusement après cette défaite face au Sénégal. Les Congolais n'ont plus leur destin entre leurs mains. Désormais, il faudra espérer un faux pas sénégalais, un scénario difficile, mais pas impossible. Tout se jouera en octobre, lors des deux dernières journées de ces éliminatoires.
La revue de presse. Radio Maïndélu capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La tension persistante à Uvira et le retard massif dans la délivrance des passeports font partie des sujets commentés par la presse sur le 9 septembre 2025. Hélène Boudjiriri pour la revue de presse.
«
Débutons avec cette histoire du conflit d'héritage qui a tourné au meurtre sur Avenue Serclipica, Bukavu. Les souverains libres, un média en ligne, rappelle dans son article que cette situation n'est pas la première dans la ville, d'où les précautions qui méritent d'être prises. Un événement dramatique s'est produit la nuit du dimanche 7 à lundi 8 septembre au quartier Nyalukemba dans la commune d'Ibanda. Il s'agit d'un garçon qui tend une trentaine d'années qui a tué son père. Les souverains libres précisent que la situation a dégénéré des suites d'une altercation entre les pères et les fils à leur résidence située sur Avenue Serclipique. Les témoins rencontrés sur les lieux précisent que la victime, dont l'identité n'a pas été officiellement révélée, avait récemment vendu une partie de sa parcelle. Cette transaction avait pour but de couvrir les frais médicaux de son épouse gravement malade. Malheureusement, la mère de famille est décédée peu de temps après. C'est à la suite de ce décès que les tensions ont éclaté. Les fils auraient alors exigé de recevoir sa part de l'argent de la vente de leur parcelle. Une réclamation qui n'a pas eu de suite favorable et c'est ainsi qu'il va poignarder son père. La Prunelle RDC, quant à elle, parle du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu qui alerte sur la dégradation sécuritaire dans la ville d'Ouvira et dénonce le silence du gouvernement congolais. Dans un communiqué publié lundi 8 septembre, il indique suivre la situation de près. Depuis le 1er septembre, particulièrement après l'arrivée du général Gacita Olivier qui aurait accentué les tensions dans la cité, la société civile s'indigne de l'absence des principales autorités provinciales actuellement en mission à Kinshasa, notamment les présidents du bureau de l'Assemblée provinciale, les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Cette absence, estime-t-elle, plonge davantage la population d'Ouvira dans la panique, poursuit ses médias. Selon des communiqués, la population attendait des orientations claires du Conseil des ministres présidé vendredi dernier par les chefs de l'État. Mais force est de constater avec amertume que rien n'a été communiqué, regrette la société civile. Elle dénonce par ailleurs les manipulations de l'opinion qui entoure ces dossiers et avertit que si rien n'est fait, le pire est à craindre. Depuis le 5 juin 2025, rappelle Radio Okapi, les autorités de la RDC ont décidé d'échanger l'ancien passeport biométrique en les remplaçant par un nouveau jugé plus sécurisé et répondant aux normes internationales. Pour l'obtenir, il faut s'armer de patience. Le processus pour obtenir ces nouveaux documents n'est pas du tout repos. Des milliers de personnes, notamment des étudiants qui ont entamé la procédure pour obtenir leur passeport depuis plusieurs mois, mais sans succès. Radio Okapi donne l'exemple d'un jeune étudiant ayant reçu une bourse depuis 6 mois et qui attend son passeport tant convoité, nécessaire pour partir étudier à l'étranger. On me dit que c'est un problème d'impression, déplore-t-il, frustré, en rappelant que sa bourse et son inscription, tout est en jeu.
Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Mandeléo. Sa mise en onde était celle de Barton Boussimé. Au microphone pour la présentation, c'était moi, Omer Moudekereza. Au revoir.